Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous à l'écoute de ce rendez-vous avec les musiciens programmés au Festival de Rocamadour. Aujourd'hui, je vous propose un entretien avec la violoncelliste Ophélie Gaillard, qui se produit avec son ensemble le Pulcinella Orchestra et les chanteuses Sandrine Pio et Emmanuel Denegri ce dimanche 24 août à 19h à la Basilique Saint-Sauveur. Le programme est sous-titré « Une nuit en Flandre ». Nous allons vous expliquer pourquoi un peu plus tard dans cette émission. Bonjour Ophélie Gaillard et merci d'avoir répondu à mon invitation pour cette interview sur Radio Présence.
Bonjour.
Je crois que ce n'est pas la première fois que vous vous produisez au Festival de Rocamadour avec le Pulcinella Orchestra, oui, mais vous étiez déjà venu et je pense que c'était même pour l'édition inaugurale du festival il y a presque 20 ans maintenant, en 2006.
Oui, j'ai eu la chance de découvrir ce lieu incroyable et qui est resté très cher à mon cœur. C'est un moment très fort dont je me souviens très très bien. Après les Victoires de la musique, j'avais joué en soliste avec orchestre et je me souviens d'une grande intensité dans ce lieu de la Basilique Saint-Sauveur.
Vous avez gardé un souvenir de l'acoustique parce que la plupart des musiciens qui s'y produisent la trouvent extraordinaire.
Oui. Je me souviens des pierres, je me souviens d'une atmosphère très particulière, très mystérieuse, que j'ai très envie de retrouver, et d'une acoustique effectivement très lumineuse. Souvent, on a des acoustiques qui sont réverbérantes, mais presque trop, et là, le son porte d'une façon assez lumineuse. Et puis, c'est aussi un sentiment presque d'intimité, parce que le lieu n'est pas si grand, et on a vraiment une proximité avec le public que moi, j'apprécie énormément.
Oui, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas, les musiciens sont entourés par le public à l'intérieur de la basilique, ce qui donne effectivement ce côté très intime et je pense aussi très inspirant pour vous, les artistes.
Oui, absolument. Et puis là, c'est un programme qu'on fait et qui, je crois, est un peu taillé sur mesure pour ce lieu. C'est un programme sacré avec aussi des moments d'improvisation au violoncelle seul. Donc on a l'alternance entre la masse de l'ensemble Pulcinella, les voix et puis le violoncelle solo. Et je crois que dans ce lieu-là, ça va être assez magique.
On va y revenir, bien sûr, sur ce programme, mais pour l'instant, on va s'intéresser d'abord à la grande violoncelliste que vous êtes, qui donne beaucoup de concerts, notamment dans notre région. On vous y voit souvent. Vous avez enregistré près d'une trentaine de CD en solo ou avec d'autres musiciens, ainsi qu'avec l'ensemble Amaryllis, celui de votre sœur Héloïse, et bien sûr avec le Pulcinella Orchestra. Et je voudrais qu'on parle d'abord de ce dernier que vous avez fondé en 2005. Quel était votre projet artistique au départ lorsque vous vous êtes lancé dans cette aventure? Aventure toujours en cours, 20 ans plus tard.
En fait, j'ai effectivement fait partie, enfin fondé avec ma sœur Héloïse l'ensemble Amaryllis. Donc on a fait beaucoup de choses pendant 10 ans. On a passé les concours internationaux, etc. Notamment avec un concours d'ailleurs Symphonie en Périgord à l'époque. Et puis ensuite, j'ai eu envie de fonder cet ensemble parce que je trouvais que le répertoire avec violoncelle concertant depuis le XVIIe siècle, c'était vraiment très, très, très peu joué. Et même, il y avait beaucoup de découvertes à faire, de répertoires à mettre en lumière, de chefs-d'œuvre à revisiter. Et j'avais déjà un petit groupe de musiciens qui sont solistes dans d'autres ensembles ou qui ont une carrière de soliste, avec lesquels on a vraiment co-fonder cet ensemble. Donc c'est moi qui lui donne l'impulsion et le fait vivre. Mais l'idée de ce collectif, en fait, de Pulcinella Orchestra, c'est que je dirige du violoncelle, très rarement à la baguette avec des chanteurs, sauf quand c'est vraiment nécessaire pour des questions de fausse orchestre, par exemple quand on a des géographiquement des grandes distances à faire. Sinon, je donne vraiment l'impulsion du violoncelle et cette idée de jouer et diriger en même temps avec le corps, la respiration, l'énergie qu'on met, ça génère beaucoup de liberté pour tous les interprètes. Donc c'est très collaboratif et ça permet aussi d'avoir le luxe, la liberté de choisir ses programmes, d'aller dans une direction de recherche, parce que je fais aussi de la musicologie et de la recherche de partitions, de choisir aussi les interprètes, les solistes, les chanteurs avec lesquels j'ai le plus envie de travailler. Et voilà, c'est un outil pour réaliser certains de mes rêves.
D'où sont issus, puisque vous en parlez, les musiciens que vous avez réunis autour de vous au sein de Pulcinella? Ils sont issus d'autres formations, entre autres, hein.
Oui, alors ça va du Concert des Nations, de Jordi Savall, au Talent Lyrique, en passant par la chant philharmonique, enfin voilà, des grandes phalanges. C'est la spécificité un petit peu de ces ensembles indépendants européens, c'est que les musiciens sont attachés à certains ensembles, mais libres d'aller de l'un à l'autre. Et je crois que c'est une grande richesse et ça permet une grande diversité de propositions artistiques. Et on s'en rend compte l'été, les auditeurs s'en rendent compte lors des festivals d'été et dans les saisons de concert. Ça permet aussi d'avoir une identité propre pour chacun des ensembles. Évidemment, c'est un projet artistique qu'on porte, hein, donc cette liberté que j'ai a un prix. C'est moins confortable, je dirais, que d'être dans une formation attitrée et exclusive pour les musiciens, mais ça donne aussi ce sentiment de liberté et cette envie de se dépasser à chaque concert et de donner tout ce qu'on peut donner au public. Et ça, je trouve que c'est très précieux.
Il y a eu de nombreux enregistrements avec Puccinella, une dizaine à ce jour d'œuvres de Bach, de Vivaldi, de Boccherini et même du compositeur contemporain Philippe Persan. Ça aussi, c'est l'un des objectifs que vous êtes assigné avec l'orchestre, laisser une trace de vos propres versions, de vos interprétations d'œuvres qui vous sont chères.
En fait, j'ai découvert l'enregistrement avec ma première version de l'intégrale des suites de Bach en solo. J'avais déjà réalisé un ou deux enregistrements avec l'ensemble d'Amaryllis à l'époque. Et c'est un exercice, l'enregistrement, que j'adore, qui est extrêmement exigeant, qui vous pousse un peu dans vos derniers retranchements, dans ce que vous voulez faire musicalement, et dans la volonté artistique que vous mettez à réaliser quelque chose. Et j'adore ce moment-là. Je dois dire que j'ai la chance de travailler avec un label qui me fait confiance et qui me laisse vraiment maître de mes projets. C'est un label indépendant, un des seuls qui existe encore, qui a vraiment ce travail d'édition que j'adore, Aparté. Et puis une signature sonore. Je pense que j'aurais pas cette qualité de son et de rendu. Je me serais lassée beaucoup plus vite des enregistrements. Mais là, c'est vraiment une expérience unique, soit en live, en concert, soit en studio, dans des beaux lieux à chaque fois que je peux choisir. Voilà, cette liberté artistique, elle m'importe beaucoup. Et parfois, on peut aller plus loin dans un enregistrement que dans un concert. Parce qu'on peut prendre tous les risques, en fait. On sait que si jamais il y a quelque chose, on peut reprendre. Et donc, on peut se permettre vraiment d'aller chercher des nuances, des couleurs, des intentions musicales vraiment extrêmes.
Il y a une douzaine d'années, vous aviez enregistré avec le Pulcinella Orchestra et la soprano Sandrine Piau un CD consacré à des arias de Jean-Sébastien Bach. Nous allons écouter l'un d'entre eux, ce qui va nous permettre d'entendre la voix de Sandrine Piau, merveilleuse chanteuse dont nous allons parler dans quelques minutes avec vous. Elle chante My Globigus Herz.
Thank you.
Mein Globiges Herz, magnifique aria de Jean-Sébastien Bach, chantée par Sandrine Pio, accompagnée par le Pulcinella Orchestra et le violoncelle d'Ophélie Gaillard, un extrait du CD Bach Aria, paru sous le label Aparté. Et concernant Sandrine Pio, eh bien voilà une collaboration et même une amitié musicale qui perdure entre vous et la chanteuse depuis quoi, plus de 15 ans maintenant?
Oui, même on peut dire 20 ans. Je l'ai rencontré, je crois qu'un des premiers concerts que j'ai suis avec elle, dont je me souviens, c'est un air en solo de Handel à l'Opéra de Sydney, avec Christophe Rousset et les talents lyriques. Mais j'étais encore pratiquement au CNSM, au conservatoire, enfin je venais de terminer. Et Christophe Rousset m'a confié tout de suite des rôles de soliste, puis après j'ai dû arrêter parce que j'avais trop de projets en solo moi-même. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et là, vous entendez, il y a une espèce de, on dirait du champagne, c'est un air de jubilation en fait, où le violoncelle, c'est le violoncelle piccolo, donc à 5 cordes, qui dialogue avec la voix et qui l'enrobe de comme ça de volutes sonores. Et c'est vrai que les timbres, nos timbres, je crois, se marient particulièrement bien. Et elle a une intensité dans ce qu'elle exprime. Ça peut être dans la joie ou dans la douleur. Il y a vraiment un sens du texte. Et puis bon, les timbres, je dois dire, se marient de façon assez magique. Ça, c'est, vous savez, c'est de la chimie, de l'alchimie même. Ça se contrôle pas, on sent que ça fonctionne comme ça. Et puis, c'est des petits moments de miracle et de magie qu'on a hâte de partager en concert.
Oui, et cet aria l'illustrait parfaitement. On en arrive au programme du concert du dimanche 24 août à 19h à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour. Vous l'avez intitulé « Une nuit en Flandre », ce qui va nécessiter quelques explications de votre part, puisque les deux compositeurs que l'on y trouve ne sont pas connus du grand public, c'est le moins qu'on puisse dire, qui sont Joseph-Marie Clément d'Alabaco et Joseph Hector Fioco.
En fait, dans mes programmes, moi j'aime bien faire voyager les gens. Et donc, on a fait les projets autour de Venise, autour de Naples, on aura bientôt les projets autour de Versailles. Et là, on se concentre sur un moment d'histoire, la grande histoire, l'histoire de la musique qui est assez fascinant, qui est le début du XVIIIe siècle. Les Flandres sont d'abord sous domination espagnole et puis en 1710-13, les Flandres passent sous domination autrichienne, donc le royaume d'Autriche-Hongrie et les Habsbourg d'Autriche. Et en fait, on a un moment de la vie musicale en Belgique, enfin l'actuelle Belgique, donc Bruxelles et Anvers, où il y a de l'argent en fait, il y a des moyens et donc ces villes ont les moyens d'engager d'excellents musiciens. Et il y a toute une diaspora italienne qui arrive, qui débarque à Bruxelles et à Anvers. Et c'est le cas des deux compositeurs qui nous intéressent, Fioco et d'Alabaco. Et on a vraiment une espèce de d'efflorescence comme ça d'excellente musique. Une partie du programme est sacrée et une partie est profane. On aura des improvisations, en fait, c'est un peu comme des improvisations d'Alabaco pour violoncelle seul qui vont ponctuer dans la Basilique Saint-Sauveur des lamentations qui sont écrites pour la Semaine Sainte. Donc c'est de la musique religieuse, bien sûr, mais avec une dimension assez pré-opératique. En fait, il faut savoir que partout en Europe, au moment de la Semaine Sainte, évidemment, on ne jouait pas à l'opéra, on ne jouait pas dans les salles de concert. La seule musique qui était faite, c'était à l'église pour les offices de la Semaine Sainte. Et ça veut dire que même les excellents chanteurs d'opéra, les cantatrices, etc., se retrouvaient tous à l'église pour chanter ces lamentations. Donc il y a une dimension aussi virtuose, très théâtralisée, très opératique dans ces lamentations qui ont un objet tout à fait liturgique, puisque ces lamentations sont écrites pour être jouées le jeudi, le vendredi et le samedi de la Semaine Sainte. Bah, vous verrez, c'est vraiment une sorte de synthèse parfaite entre de la musique italienne virtuose et très opératique, et puis la rigueur plus flamande de cette période de l'année qui est évidemment très sombre, puisque c'est la Semaine Sainte. Et puis, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les textes sont tous en latin et sont des extraits, en fait, sont des parties du texte des Lamentations de Jérémie, qui sont extrêmement expressives aussi, qui parlent donc de la désolation et de la ruine de Sion, de la ville de Sion, et disons, le fait que Sion est abandonné par le Seigneur. Donc ça, c'est pour le substrat religieux.
Oui, alors vous avez intitulé ça « Une nuit en Flandre ». En Flandre, on comprend, bon, la Belgique, hein, tous les deux, en fait, ont vécu à Bruxelles, Fioco et Dalabaco, mais le côté « nuit », c'est parce que il y a un côté sombre aussi dans ce que vous allez proposer ?
Ah oui, c'est une musique. Alors, les lamentations, elles sont jouées, enfin, elles étaient jouées, là, on est hors du contexte liturgique, évidemment, hein, mais par contre, je pense que ça trouvera un écrin magnifique à Saint-Sauveur. L'idée, en fait, de la présence de la nuit, c'est que les lamentations était toujours chantée effectivement à la tombée du jour, et le principe des lamentations, c'est que bon, il y en a 9, donc on commençait l'office du mercredi avec 9 bougies, et au fur et à mesure des lamentations, on éteignait en fait les cierges dans l'église, et on finissait dans l'obscurité totale le samedi saint, qui est le moment d'attente, de repos, etc., dans la liturgie catholique et romaine, avant le dimanche de Pâques et les célébrations de la résurrection. Donc on va vraiment au bout de l'obscurité et de la profondeur de la nuit, y compris physiquement avec des cierges, pour ensuite évoquer la renaissance avec le dimanche pascal. Ce qu'on va voir dans ce concert, c'est l'accompagnement jusqu'à une atmosphère très nocturne, puisque vraiment, en fait, chacune des bougies s'éteint au fur et à mesure des leçons. Et dans le même temps, on finit le concert avec un motet du jour de Pâques de François Couperin, qui s'appelle Victoria Victoria. Donc, pas la peine de vous faire un dessin, hein, c'est vraiment après les ténèbres, on appelle ça aussi parfois des leçons de ténèbres. Après les ténèbres, on a évidemment la joie éclatante du dimanche de Pâques.
Oui, et à propos des caprices pour violoncelle de Joseph-Marie Clément d'Alabaco, que vous allez interpréter, donc, puisque c'est une œuvre pour violoncelle seule, c'est vraiment son œuvre marquante le concernant ?
Oui, il a écrit pas mal de musique de chambre. On a finalement retrouvé assez peu de partitions. Je trouve que c'est son œuvre la plus intéressante parce que ce sont, comme leur nom l'indique, des caprices. Et on a un peu l'impression... Alors, il y a des réminiscences de Bach. Hein, je vous cache pas qu'on peut y retrouver des élans qu'on retrouve dans les suites de Bach, mais avec un effet beaucoup plus d'improvisation, et ce ne sont pas des danses. C'est un peu comme une sorte de pensées qui défilent comme ça, de chemin d'improvisation, c'est pas si loin du jazz finalement. Et cette liberté est pour moi un peu comme une sorte de méditation qui prépare à chaque fois la lamentation, un peu comme Jérémie qui se lamente et qui déploie un texte comme ça dans la lamentation. Et j'ai l'impression que le violoncelle fait un peu la même chose sans parole, en prélude à chaque pièce vocale.
Nous avons déjà présenté Sandrine Pio, mais il faut qu'on dise un mot sur Emmanuelle de Négri, grande soprano elle aussi, et l'une des grandes voix de la scène baroque française actuelle.
Oui, c'est une star du Festival de Bayreuth aux États-Unis. Elle est partout, notamment avec les arts florissants. Elle a aussi la fibre pédagogique, puisqu'elle est en train de coacher le Jardin des Voix de
William Cressy.
de William Christie, des arts florissants au jardin de Tiré. Et nous avons déjà fait un programme Rameau ensemble et elle a une voix très lumineuse. On a déjà évidemment donné ce programme un certain nombre de fois et ces deux voix se marient très bien. En plus, je pense que ça s'entend aussi sur scène, on a une grande complicité humaine avec toutes les deux, avec ces deux chanteuses, Emma Denegri et Sandrine Piau. Et c'est très joyeux aussi, même si la musique qu'on joue ne l'est pas forcément, il y a beaucoup de complicité.
Je ne vous cache pas que j'ai hâte d'entendre votre violoncelle et les voix d'Emmanuel Denegri et Sandrine Piau résonner dans la basilique Saint-Sauveur. Je ne peux pas faire écouter à nos auditeurs de versions des œuvres de Joseph-Marie Clément d'Alabaco et Joseph-Hector Fiocco par le Pulcinella Orchestra, puisqu'il n'existe pas encore d'enregistrement. En revanche, je peux vous faire écouter de nouveau la voix de Sandrine Piau, accompagnée par le Pulcinella Orchestra et Ophélie Gaillard. Il s'agit d'un extrait du Stabat Mater de Boccherini. Extrait du Stabat Mater de Boccherini, chanté par Sandrine Piau, accompagné par le Pulcinella Orchestra et Ophélie Gaillard. Il est tiré du CD Boccherini, paru en 2019, toujours sous le label Aparté. On va parler pour conclure de vos projets en 2025-2026, que ce soit avec l'ensemble Pulcinella ou à titre personnel. Je crois qu'il y a beaucoup de choses encore qui se préparent.
Oui, eh ben on va avec grand bonheur déjà graver ce programme d'une nuit en Flandre. Donc ça, c'est dans les projets tout à fait imminent. J'ai un autre projet avec le Puccinella Orchestra autour de Venise, qui tournera aussi les deux saisons prochaines. À titre personnel, je suis plongée en ce moment dans une pièce magnifique qui s'appelle Le Cantique du Soleil de Sofia Gubaidulina, compositrice qui vient de décéder cette année à plus de 90 ans et qui est vraiment une des grandes compositrices du XXe siècle, sur un texte de Saint-François d'Assise qui est magnifique, hein, une œuvre solo avec violoncelle solo avec chœur. Donc je suis plongée dans son œuvre en ce moment. Et ça, c'est un peu nouveau. Je taille une part importante de mon répertoire maintenant et de mes projets à des femmes compositrices, avec vraiment des petites pépites que je trouve à chaque fois. Donc ça, c'est un grand bonheur. Et bien sûr, je vais retrouver mes étudiants à la Haute École de Musique de Genève bientôt. Et j'aime bien alterner et ponctuer comme ça, rythmer ma vie musicale avec l'enseignement et les concerts.
Eh bien, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Il me reste à vous remercier, Ophélie Gaillard, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Vous êtes en concert avec le Puccinella Orchestra et les chanteuses Sandrine Pio et Emmanuel Denegri ce dimanche 24 août à 19h à la Basilique Saint-Sauveur de Rocamadour, où vous donnez ce programme Une nuit en Flandre. Je rappelle que la billetterie est en ligne sur le site www.rocamadourfestival.com. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous quotidien avec les musiciens du festival. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupris.